Reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr.
Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète: J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quand Hérode se vit joué par les mages, sa fureur fut extrême. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Mais quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: Il sera appelé Nazaréen. Jusqu'ici la lecture. Et je vous encourage à garder vos Bibles ouvertes le plus longtemps possible. Nous allons encore prier ensemble. Pourrions-nous poser la question, notre Dieu, après des années à écouter des prédications, peut-être parfois des années à prêcher, à quoi bon encore, quand nous avons lu et relu ta parole, à quoi bon encore nous arrêter pour entendre ces oracles divins être enseignés? Et notre Dieu, tu nous commandes ce qui est bon pour nous. Lorsque tu nous commandes de persévérer dans la doctrine des apôtres et l'enseignement de tes oracles. Et nous voulons te demander la grâce, Père, s'il te plaît, de nous montrer encore ce matin que ta sagesse dépasse notre compréhension en nous bénissant par ce récit que nous connaissons pour beaucoup d'entre nous et qui peut-être aujourd'hui ne nous étonne plus, ne nous interpelle plus. Oh, parle! Parle, toi, le Dieu de nos âmes, et que nous puissions t'entendre et te répondre de manière adéquate, pour la gloire de ton nom et pour l'édification de ton peuple. Et aussi, Père, pour la conversion des pécheurs qui ne sont pas en paix avec toi parmi nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus que nous te prions ceci. Amen. Depuis le début de notre série dans l'évangile de Matthieu, nous avons appris un certain nombre de choses sur la royauté du Christ. Et je ne sais pas si vous êtes frappé par ça, mais en tout cas, moi, ça m'interpelle quand j'étudie des textes narratifs de la Bible, c'est-à-dire des textes qui ne sont pas forcément des textes de loi, où là, a priori, en général, l'enseignement est assez rapide à saisir. Ce ne sont pas non plus des épîtres, comme les épîtres de Paul, où souvent la doctrine aussi et l'enseignement que nous devons comprendre est clairement énoncé. Que faire quand nous avons des histoires, des narrations? Où est la leçon? C'est souvent plus difficile, n'est-ce pas, d'en tirer des leçons. Et pourtant, nous avons vu déjà bien des choses. Et ce matin, je vous propose une sorte d'introduction à nos versets 12 à 23, une introduction par laquelle je vais aussi nous donner des clés de lecture qui sont valables en réalité pour tous les récits bibliques. D'abord, commençons en rappelant que les récits, lorsque Dieu en a inspiré dans les Écritures, Le but est plus que de nous augmenter notre connaissance de faits historiques. Il y a ça, hein, évidemment, Dieu veut que nous connaissions, que nous sachions ce qui s'est passé, mais ce n'est pas que ça. C'est bien plus profond. Les récits de la Bible ont un sens. Ils ont pour nous une instruction importante qui nous aide à connaître Dieu mieux, à connaître le plan de Dieu et notre place dans ce plan de Dieu. Et cette connaissance même pointe et se focalise en particulier sur la personne de Jésus-Christ. Romains chapitre 15, l'apôtre Paul nous parle du fait que ces choses, en citant l'Ancien Testament, ont été écrites pour notre instruction, afin que nous puissions recevoir la consolation que Dieu a placée dans sa parole, cette consolation qui nous permet de persévérer dans la foi. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul va citer plusieurs récits de l'histoire d'Israël, notamment dans le désert, et va dire que ces choses aussi nous servent d'exemple, d'instruction, et cette fois-ci, non pas pour notre consolation, mais notre avertissement. Il cite ces temps d'idolâtrie dans le désert et les châtiments divins qui ont suivi. Et Paul nous dit, c'est afin que nous n'imitions pas leur exemple. Alors comment étudier un récit et comment en tirer des leçons? Eh bien, il y a plusieurs choses à faire, mais peut-être le réflexe que je nous encourage à avoir, c'est de se poser la question suivante. Quels sont les éléments répétés? Quelles sont les expressions qui reviennent régulièrement dans ce récit? Et certainement, là, nous aurons du coup une indication du thème principal, une orientation pour nous aider à chercher le sens. Et quand nous regardons à notre texte de ce matin, j'aimerais relever avec vous au moins trois éléments répétés ou trois expressions répétées qui nous indiquent le thème. La plus nombreuse des répétitions, c'est celle de l'enfant ou du petit enfant. Nous l'avons au verset 13 à deux reprises, si vous relisez avec moi. L'ange s'adresse donc à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. » Et que fait Joseph ? Il prend le petit enfant et sa mère, verset 14. On a aussi même à la fin du verset 13 de nouveau, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Verset 20. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne, cette fois-ci, dans le pays d'Israël. Verset 21 encore. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Et il y a cette expression donc du petit enfant, mais il y a aussi des expressions qui désigne autrement ce petit enfant. Regardez verset 15. Il y resta donc jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et ici, ça désigne de nouveau le petit enfant en question. Verset 23. Pourquoi est-ce que Dieu indique à Joseph d'aller à Nazareth afin que là encore, s'accomplisse quelque chose concernant le petit enfant. Il sera appelé Nazaréen. Autrement dit, donc, déjà, au moins, au premier abord, sans savoir précisément ce que Dieu nous indiquait hein, par ce récit, quelle est l'importance de cette histoire de la fuite de Jésus en Égypte et du retour, nous pouvons au moins dire que Jésus est au centre, et non pas nous. Je dis Jésus est au centre et non pas nous, parce que parfois, je crains que notre réflexe soit souvent, en lisant la Bible, cette question. Qu'est-ce qui me touche ou qu'est-ce qui peut m'intéresser? Cette question n'est pas mauvaise en soi, mais elle ne doit pas venir au début. Elle doit venir bien plus tard, après que nous ayons vraiment compris, n'est-ce pas, le sens premier. Autrement, si tout de suite nous sautons sur le texte et nous demandons « Ok, quel est mon intérêt dedans ?», nous risquons vite d'étouffer finalement ce que Dieu veut nous dire et qui, à nos yeux, peut-être, ne semble pas aller dans notre intérêt. La question donc doit être plutôt « Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus sur le Christ, sur sa mission, sur la raison de sa venue, au travers des péripéties de son enfance ici. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer au travers de ce récit qu'il a sélectionné parmi tant d'autres choses qui sont arrivées dans l'enfance du Christ? Nous avons assez peu, hein, dans la Bible, d'éléments concernant l'enfance du Christ, mais l'Esprit Saint a sélectionné ce qu'il a estimé le plus utile pour notre foi. Donc, première expression répétée, l'enfant, le petit enfant. Comment étudier encore un récit? C'est toujours cette même méthode de relever les expressions répétées, et une des expressions qui revient, ou en tout cas des protagonistes, un élément qui revient régulièrement, c'est celui des anges. L'avez-vous remarqué? Verset 12, j'ai commencé au verset 12. « Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. » Ce n'est pas dit explicitement, mais peut-être que c'est averti divinement par un ange. En tout cas, il est clair qu'au verset 13, il nous est dit « Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. » Et de nouveau, verset 19, « Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. » Concernant les anges, j'aimerais faire quatre remarques. Pour les lecteurs habitués des évangiles de Luc et de Matthieu, qui sont sur les quatre évangiles les seuls évangiles à nous raconter une partie de l'enfance du Christ, vous avez certainement dû être frappé et remarquer qu'il y a une grande quantité d'interventions visibles des anges. Beaucoup d'anges autour de la naissance du Christ. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, voit un ange lui apparaître qui lui annonce que son épouse Élisabeth, stérile, et bien que ayant dépassé l'âge de concevoir, sera enceinte. Et que ce fils, Jean-Baptiste, doit être le précurseur, celui qui prépare le peuple à accueillir le fils de David, le roi sauveur. Un ange encore apparaît à Marie, ce même ange, Gabriel, quelques semaines plus tard, pour lui annoncer « Voici une grâce du Seigneur, tu seras enceinte, descendant de David. La puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre et tu concevras un fils qui sera appelé fils du Très-Haut. » Encore un peu plus tard, lorsque Marie quitte sa cousine Élisabeth, qu'elle était allée visiter, hein, puisqu'elle était tombée enceinte, elle l'accompagne dans ses derniers mois de grossesse, et elle retourne ensuite auprès de Joseph. Sauf qu'elle est enceinte, et elle n'était pas partie enceinte. Et Joseph s'interroge, et il s'apprête même à rompre, n'est-ce pas, les fiançailles, pensant que Marie a commis l'adultère. Et de nouveau, un ange apparaît à Joseph, et nous l'avions lu dans Matthieu chapitre 1, pour lui dire « N'aie pas peur de prendre Marie, ta femme avec toi, car ce qu'elle a conçu en elle vient du Saint-Esprit. » Encore des anges. Nous chantons régulièrement à Noël, les anges dans nos campagnes, n'est-ce pas? Les bergers qui, dans une nuit froide, semble-t-il, ont vu un ange apparaître, puis même une chorale d'anges qui célébrait la naissance du fils de David et annonçait qu'il était du coup source de paix pour les hommes. Donc, première remarque, beaucoup d'anges autour de la naissance du Christ. Les temps qui précèdent tout juste sa naissance et les temps qui accompagnent les premières années de sa vie. Deuxième remarque, je nous encourage, quand nous voyons les anges mentionnés dans la Bible, à une prudence dans l'étude des anges, pour la raison suivante. C'est un sujet qui est, je dirais, un lieu de beaucoup de confusion depuis toujours, mais en particulier à notre époque. Le paganisme qui revient en force, les pratiques occultes qui sont de plus en plus à la mode, et la confusion qu'a encouragée l'Église catholique romaine par le culte et l'adoration des anges, qui est pourtant défendue et interdite dans les Écritures. Toutes ces choses, je crois, ont contribué à ce que, parfois même nous, en tant que chrétiens, nous ayons une idée très vague, très farfelue peut-être parfois, des anges. Ce n'est peut-être pas votre cas ce matin, tant mieux. Mais je crois que c'est quand même une prudence. On doit être conscient que peut-être une partie de notre idée concernant les anges est davantage héritée par l'ambiance autour de nous que par ce que la Bible enseigne. Et je dirais, il y a aussi une naïveté en plus de la fascination pour les anges, une naïveté parce que parfois ce sujet est abordé comme si il n'y avait finalement que des anges bons. C'est comme ça souvent que nos contemporains l'abordent. Ils ne sont pas conscients que la Bible nous parle de deux catégories d'anges, les anges élus qui sont fidèles à Dieu et les anges déchus, qu'on appelle aussi démons. Et les démons n'ont pas d'autre intention que de nous détourner du Christ Jésus et de la vérité. Et il serait bien facile, donc, d'aborder ces textes avec pas mal de confusion. Prudence, enfin, parce que cette question des anges, lorsqu'elle est maltraitée, lorsqu'elle est mal traitée, peut nous conduire à des rencontres, je dirais, malheureuses, avec des esprits mauvais. Et pas mal de personnes ont des problèmes spirituels et des problèmes de toutes sortes à cause, justement, de l'influence des esprits impurs. Mais vous l'avez compris ici, Matthieu nous parle des anges restés fidèles, qui n'ont pas suivi le diable dans sa rébellion. Il nous parle des anges qui sont au service des croyants pour les aider à recevoir les bienfaits de Dieu. C'est ce que nous dit Hébreux 1, je lis simplement un verset dans Hébreux 1, verset 14, qui résume bien le rôle des anges. Hébreux 1, verset 14. En parlant des anges, l'auteur nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Troisième remarque, nous avons parlé de la prudence nécessaire dans l'étude des anges, mais souvent, quand on veut corriger un excès, le risque, quel est-il ? D'aller effectivement dans l'excès inverse. Et ce ne serait pas non plus une solution de nous boucher les oreilles chaque fois que les Écritures nous parlent des anges ou des esprits. Dieu, dans sa sagesse, a jugé bon et utile pour notre foi de mentionner l'existence de ces créatures. Quatrième et dernière remarque sur les anges. Et c'est la remarque qui peut-être nous permet de revenir à notre texte et de comprendre l'utilité de relever le fait qu'il y a une grande activité des anges dans cette période. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous devons être conscients que la Bible ne nous présente pas une activité visible des anges, constante. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Les anges sont sans cesse en train de servir Dieu et d'accomplir sa volonté, c'est évident. Ce sont des êtres vivants au service de Dieu. Mais quand nous lisons les Écritures, nous ne voyons pas à toutes les pages et à tous les coins de l'histoire du peuple d'Israël des anges apparaître en tout lieu, loin de là même. En réalité, si vous faites le compte, c'est des périodes assez précises, en général, où les anges agissent de manière visible et, je dirais, manifeste. Alors la question suivante, qu'est-ce qui caractérise ces périodes ? C'est quoi ces temps particulier où l'activité des anges est intensifiée. En général, il y a des exceptions évidemment, mais en général, nous voyons que l'activité visible, intense des anges dans l'histoire de la rédemption correspond à trois types de périodes. D'abord, c'est souvent autour de la constitution et ou de l'organisation du peuple de Dieu. Exemple, vous vous souvenez de Jacob, Genèse chapitre 28, dans ses errances, il est en train de fuir son frère Ésaü et il erre ici et là. Et à un moment donné, il va se coucher avec pour oreiller une pierre. Alors ça me frappe toujours, je suis toujours intrigué, je me demande jusqu'à présent à quoi ressemblait cette pierre. Et donc voilà qu'il pose sa tête sur cette pierre et s'endort. Et on nous dit qu'il voit une échelle, n'est-ce pas, qui part de la terre et qui touche les cieux. Et quoi donc sur cette échelle, des anges, n'est-ce pas, des êtres célestes qui montent et descendent. Et à son réveil, Jacob s'exclame, c'est le camp de Dieu ici, la porte du ciel, et je ne le savais pas. Et pourquoi je dis que ça a un rapport avec la constitution du peuple d'Israël? Eh bien, Jacob, l'ancêtre des 12 tribus, n'est-ce pas? C'est dans ce rêve aussi qu'il va réentendre la promesse de Dieu concernant sa descendance qui sera nombreuse. Autre épisode en lien avec la constitution et ou l'organisation du peuple de Dieu, et qui est l'occasion du coup d'une grande activité des anges, le don de la loi. Dans Galates chapitre 3 au verset 19, Paul va préciser que la loi a été donnée par un médiateur Moïse et par l'intermédiaire des anges. C'est peut-être moins évident quand nous lisons l'Exode, mais Paul nous informe ici que des anges étaient actifs, particulièrement actifs, à l'époque où Dieu a révélé sa loi au peuple. Un moment structurant, n'est-ce pas? Un moment décisif, un tournant dans l'histoire d'Israël, puisque nous sommes au début de l'alliance avec le peuple. Donc, premier type de période où les anges agissent particulièrement, c'est quand il y a un tournant dans l'histoire du peuple, dans sa constitution ou son organisation. Deuxième période où nous voyons particulièrement les anges à l'œuvre, ce sont des périodes de grande délivrance où Dieu intervient pour sortir son peuple de différentes détresses qu'il a pu rencontrer ici et là. Le psaume 78 nous livre ici, je dirais, un regard un petit peu dans les coulisses de ce qui se passe lorsque Dieu a châtié le Pharaon en Égypte. Lisons ensemble psaume 78, versets 41 à 49. Psaume 78, versets 41 à 49. Ce psaume est un psaume qui rappelle que malgré les grâces et les délivrances nombreuses de Dieu envers le peuple n'a eu de cesse d'oublier la bonté de Dieu et de se détourner de lui. Et nous lisons à partir du verset 41. Ils recommencèrent à tenter Dieu, à provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, ni du jour où il les avait libérés de l'adversaire, ni des signes qu'il avait fait paraître en Égypte, ni de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea les bras de leur Nil en sang, et ils ne purent en boire les ruissellements. Il rappelle ici les fléaux que Dieu avait envoyés. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Et il livra leur récolte aux criquets, le produit de leur fatigue aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leur sycomore par la gelée. Et il livra leur bétail à la grêle et leur troupeau à la foudre. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une mission d'ange de malheur. Ici, le psalmiste, je le disais, c'est comme s'il ouvrait un peu une fenêtre sur les coulisses. Quand nous lisons l'Exode, nous voyons que Dieu exécute au travers de Moïse, n'est-ce pas, ces fléaux, mais derrière l'action de Moïse, comme dans l'Apocalypse d'ailleurs, on le voit, ce sont des anges au service de Dieu qui accomplissent la colère et le jugement de Dieu. Je ne le cite qu'en passant, vous pouvez penser aussi à la fin de 1 Samuel, lorsque il va y avoir aussi un fléau sur le peuple à cause d'un recensement de David, un recensement qui n'aurait pas dû avoir lieu, et Dieu envoie un ange qui châtie le peuple. Comme ça, vous restez éveillés. Oui, donc j'ai parlé de la délivrance du peuple d'Israël et j'ai mentionné David, mais David convient plutôt à la troisième période, la période des jugements de Dieu. Lorsque Dieu aussi juge particulièrement son peuple, il utilise là aussi une quantité d'anges qui vont avoir des actions visibles. Pensez à Élie. Élie, qui, lorsqu'il va être enlevé, Élisée voit, chariot, n'est-ce pas, de l'Éternel, armée de l'Éternel. Et nous voyons du coup une cohorte d'anges qui viennent emporter Élie jusque dans les cieux. Pensons à Élisée. Lorsque Élisée est entouré par une armée ennemie et que son serviteur sort de la tente et il regarde autour de lui et il voit d'innombrables soldats, il va voir son maître Élie en disant « Maître, nous sommes perdus ». Et Élisée va prier le Seigneur, que le Seigneur lui ouvre les yeux et lui fasse voir le monde invisible. Et il voit qu'une cohorte d'anges puissants sont là, prêts à les défendre de la part de Dieu. Période de jugement, je dis, cette période d'Élie et d'Élisée, puisque le Christ lui-même va dire que dans ces temps-là, il y avait des besoins en Israël, des gens dans la famine, il y avait des veuves. Et pourtant, Jésus va expliquer que Élie et Élisée n'ont été pourtant envoyés qu'à des non-juifs. Parce que dans ce temps, Dieu était en train de montrer à Israël qu'à cause de son infidélité, Dieu retirait petit à petit sa faveur et commençait à se tourner vers les nations. Une période donc de jugement. Alors, après avoir entendu tout ça, on se demande, mais quel est donc le rapport avec la venue du Christ, notre texte dans Matthieu chapitre 2 ? Eh bien, l'abondance de l'activité visible des anges suggère que ce temps de la naissance du Christ est un temps pour Israël où le peuple doit s'attendre ou bien à une grande délivrance de Dieu, ou bien à un grand jugement de Dieu, ou bien à un tournant en ce qui concerne le peuple dans sa constitution et son organisation. Et en réalité, vous qui connaissez la suite de l'Évangile, nous pouvons affirmer qu'il s'agira des trois. Constitution d'un peuple nouveau, nouvelle alliance par le sang de Christ. Ce n'est plus donc la nation d'Israël qui sera le peuple élu, mais des hommes et des femmes issus de toute nation, rassemblés par le sacrifice de Christ, qui leur donne accès au Père. Délivrance est même la plus grande de toutes, puisque Jésus vient et en mourant à la croix, ce n'est pas quelques ennemis, quelques guerriers, quelques nations hostiles qu'il met en déroute, mais c'est le pire et le plus terrible ennemi de l'humanité, le péché. Le péché par lequel la mort est entrée dans le monde, nous dit les Écritures. Le péché par lequel nous sommes devenus ennemis de Dieu, pas juste séparés. Le péché qui, si il n'est pas nettoyé entièrement par le sang de Jésus dans nos âmes, nous promet certainement un avenir de détresse éternelle. Et Christ vient procurer cette délivrance. Matthieu chapitre 1, nous l'avions lu. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. La plus grande des délivrances accomplie à cette période de grande activité angélique. Enfin, jugement. Jugement contre Israël, avec notamment la destruction du temple quelques années plus tard. Dieu par là va manifester le fait que la rébellion d'Israël est arrivée à son comble et que l'ancienne alliance arrive à son terme, comme il l'avait annoncé dans Jérémie. Et le peuple d'Israël est donc, Romains chapitre 11, ennemi de Dieu à cause de l'Évangile, bien qu'il soit encore aimé à cause des patriarches. Voilà donc, j'espère que vous voyez l'intérêt, quand on lit un récit, de relever les expressions, les éléments qui se répètent, et de se demander, mais ok, s'il y a cette sorte d'insistance ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons donc parlé de l'enfant Jésus qui est au cœur de ce récit, nous avons parlé des anges, et nous finissons ici avec un dernier élément répété, celui de l'accomplissement des prophéties. Vous l'avez certainement remarqué, ce texte semble être découpé en trois parties. Et chacune de ces parties se termine par la citation directe ou indirecte d'une parole de prophète. Regardons ensemble. Nous l'avons d'abord au verset 15. On nous dit que Joseph resta donc en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Puis, verset 18, la citation du prophète Jérémie, « Une voix s'est fait entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Et le verset 17 nous dit que « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. » Et enfin, verset 23, ici on n'a pas une citation directe mais indirecte. Et nous lisons que « Il est venu demeurer dans une ville appelée Nazareth afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. » Donc, cette répétition structure le passage de manière encore plus précise et nous aide certainement, même si là, encore une fois, on n'a pas encore plongé précisément pour comprendre le sens exact, mais on peut se dire, ok, Dieu nous raconte cette période de l'enfance du Christ parce qu'il veut attirer notre attention sur le fait que des choses qu'il avait annoncées se déroulent là. Il veut concentrer notre attention sur le fait que Dieu est en train de poursuivre la suite de son plan qu'il avait annoncé d'avance. La parole des prophètes s'accomplit. Alors, il y a deux principaux sens au terme de prophétie. En réalité, dans la Bible, nous voyons qu'il y a même, d'après James Hutchinson, un de mes anciens profs à l'Institut biblique, est convaincu même qu'il y a 7 ou 8 sens du terme prophétie dans la Bible, et c'est possible, je crois qu'il est suffisamment rigoureux pour ne pas dire des choses étranges. Je vous parle ici simplement des deux sens les plus courants. Prophétie, le sens le plus connu, ou ce qui est le plus répandu, c'est l'idée d'une communication, d'une parole divine qui prédit l'avenir, qui annonce à l'avance quelque chose qui doit arriver. Prophétie. Ok ? Ça, c'est le sens le plus connu. Mais dans la Bible, si ce sens existe, il n'est pas forcément le sens le plus commun. En réalité, le sens le plus commun est celui-ci. C'est une communication d'une instruction divine. Tout simplement. Ça ne communique pas forcément ce qui va se passer, mais ça peut être un commandement ou des commandements fait par la bouche d'un porte-parole de Dieu, une prophétie. Ça peut être une exhortation, une consolation, une promesse, un avertissement, etc., etc. Le sens le plus basique biblique de prophétie, c'est une communication de Dieu. Dieu parle par la bouche d'un porte-parole. Ainsi, Dieu dira à Moïse que Aaron sera sa bouche et lui sera pour Aaron comme Dieu, parce que c'est Aaron qui s'exprimera devant le Pharaon de la part de Moïse. Et dans un sens, Moïse est aussi la bouche de Dieu, puisque Dieu lui communique les paroles qu'il doit communiquer à Aaron. Ce sont en ce sens des prophètes. Venons-en à la dernière partie avant d'arriver à la conclusion. Deux types d'accomplissement. Il est important de réaliser que dans l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile où il y aura le plus cette phrase que vous avez déjà entendue. Et alors s'accomplit ce que le prophète avait dit. Et alors s'accomplit ce que les Écritures avaient annoncé. Plus que n'importe quel autre évangile, Matthieu est attaché à ce que le lecteur comprenne que toutes ces choses ne sont pas hasardeuses, mais correspondent au plan sage et annoncé d'avance de Dieu. Dieu tient toutes les circonstances de la vie du Christ et les circonstances qui entourent la vie du Christ dans ses mains. Deux types d'accomplissements à ne pas confondre. Il y a un accomplissement direct et un accomplissement indirect. Direct, par exemple, Ésaïe chapitre 7, lorsque Ésaïe dit « La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils », eh bien l'accomplissement là est direct. Parce que Marie est tombée enceinte bien qu'étant vierge, et elle a mis au monde un fils. Ok ? Ce qui est annoncé correspond littéralement, on pourrait dire, à ce qui arrive. Mais il y a un autre type d'accomplissement, et c'est souvent ce type d'accomplissement dont Matthieu parle. Ce sont des accomplissements qu'on peut définir comme indirects, ou on pourrait dire des accomplissements formels. Ça veut dire que ça correspond à la forme, même si, premièrement, cette prophétie correspondait d'abord à autre chose. Exemple. Lorsque, au verset 15, regardez avec moi, il est dit « Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Si vous regardez à l'origine cette prophétie, dans quel livre se trouve-t-elle ? Chez quel prophète ? Le prophète Osée, au chapitre 11. Et quand vous lisez le contexte de la prophétie, Osée, c'est très clair qu'il parle du peuple d'Israël et non pas du Christ. Et donc vous voyez, il y a là un accomplissement indirect dans le sens où, au premier abord, cette prophétie ne parle pas directement du Christ, mais Dieu a voulu que dans la vie du Christ s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète concernant Israël. Et nous y reviendrons dans... quelques temps, je ne vais pas annoncer en me disant la semaine prochaine, mais on y reviendra. Accomplissement donc indirect. Pareil pour la prophétie qui suit. Une voix s'est fait entendre à Rama, verset 18, des pleurs et beaucoup de lamentations, c'est Rachel qui pleure ses enfants. Cette prophétie de Jérémie ne concernait pas d'abord les enfants massacrés par Hérode, mais elle concernait les Israélites qui étaient emmenés en captivité à Babylone. En Assyrie pour une partie d'eux, et ensuite à Babylone. Précisons quand même que quand Matthieu fait ses rapprochements, il les fait inspirés par l'Esprit de Dieu, et il ne les fait pas comme nous on pourrait dire « Ah, ça fait penser à !» Il y a plus que ça, hein, c'est pas, entre guillemets, de la loterie, c'est pas un jeu de hasard, et il dit « Ah, ça correspond, et du coup... » C'est beaucoup plus que ça. En réalité, ça nous montre que la parole de Dieu, premièrement, est utile pour toutes les générations. Il n'y a pas plus actuel que la parole de Dieu dans ce monde. C'est à tel point que lorsque Dieu parle aux hommes d'hier, il leur parle de sorte à être utile aux hommes d'aujourd'hui et à ceux de demain. Deuxième remarque, parfois Dieu intervient par des consignes précises hein, pour que de nouveaux événements correspondent à d'anciens événements. C'est pour ça qu'il dit précisément à Joseph, va en Égypte, parce que Dieu voulait que s'accomplisse dans la vie du Christ ce rapprochement avec Israël et son histoire. Et pourquoi Dieu fait ça ? Eh bien, pour attirer notre attention à la fois sur les similitudes entre la prophétie initiale et la prophétie indirecte, mais aussi sur les différences. C'est un peu comme lorsqu'un enfant apprend à écrire, ou à lire d'abord. On lui apprend à lire avec des lettres qui ont une graphie assez facile, assez simple. Ce n'est pas tout de suite la graphie de l'écriture attachée. Puis, quand il est à l'aise et qu'il sait lire et qu'il va apprendre à écrire, on lui montre aussi, et il apprend à lire ensuite, avec l'écriture attachée. Vous voyez la similitude ? C'est le même E, le même S, le même T, mais d'un côté, ce sont des écritures qui sont plus propices à apprendre à lire, mais de l'autre, plus propices à apprendre à écrire. Il y a des similitudes, des différences, parce que simplement, on est à une autre étape. Et de la même manière, Christ nous indique que nous sommes à une autre étape lorsqu'il revit ce que Israël a vécu. Je passe sur un autre élément pour arriver à la conclusion. On pourra le revoir une autre fois. Mais peut-être quelques applications pour nous. Pourquoi est-ce que Dieu parle de cette manière ? Parce qu'a priori, peut-être certains se disent, et je pourrais comprendre, mais ça a l'air compliqué du coup. Le truc, il faut vérifier la prophétie dans l'Ancien Testament, il faut chercher les similitudes, les différences. Eh bien, Je pense que si Dieu utilise les événements de la vie courante, les récits, pour nous parler, c'est pour nous montrer quelques leçons. La première, c'est que l'histoire de nos vies, l'histoire de nos choix, s'inscrivent toujours dans une histoire beaucoup plus grande qu'on ne le réalise souvent. Le choix d'Hérode d'aller s'opposer au Christ et de massacrer ses enfants innocents à Bethléem est son choix. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que ça s'inscrivait dans une histoire beaucoup plus grande, l'histoire que Dieu écrit. L'histoire que Dieu écrit est l'histoire qui concerne en particulier le Christ. Autrement dit, nos vies, nos choix, nos décisions ont un sens. Elles pèsent. Ensuite, deuxième chose qu'on peut noter en guise d'application, pourquoi est-ce que Dieu utilise des récits et ce type d'accomplissement indirect pour communiquer avec nous ? Eh bien, ça nous rappelle que nos vies encore, nos choix, nos décisions, ne peuvent jamais arrêter le plan de Dieu. Jamais. Hérode a essayé, il est le plus grand exemple ici dans notre texte, de quelqu'un qui a mis toute la puissance qu'il avait à sa disposition pour s'assurer que le plan de Dieu faillisse. Il voulait tuer le Messie, celui choisi par Dieu pour dominer et instaurer un règne de paix et de justice dans le monde. A-t-il réussi ? Avec évidence, il était incapable de freiner, d'empêcher le plan de Dieu. Autre leçon, nous devons réaliser donc que de toute manière, puisque nos vies, nos choix, nos décisions s'inscrivent toujours dans le plan de Dieu, dans la grande histoire de Dieu, nos décisions, nos vies, nos choix, ou bien, de deux choses l'une, elles contribuent à notre avantage si nous coopérons avec Dieu, ou bien nos décisions, nos vies, nos choix contribueront plutôt à notre détresse, à notre perte. Parce que quoi qu'il arrive, le train que Dieu a lancé ne sera jamais interrompu. Et nous sommes invités par nos décisions, nos vies, nos choix, ou bien à entrer dans ce train et à suivre le mouvement de Dieu, ou bien par nos vies, nos choix, nos décisions, à essayer d'arrêter ce train lancé à la vitesse céleste du plan de Dieu. Et l'opposition sera, je pense, défavorable, n'est-ce pas, pour nous. Pour n'importe quel être humain qui voudrait s'y opposer. Enfin, la dernière question qu'on peut se poser, c'est « Mais concrètement alors, comment est-ce que vos vies, vos choix, vos décisions peuvent non pas s'opposer au plan de Dieu, mais non seulement s'inscrire dans le plan de Dieu, mais y contribuer ?» Eh bien, nous l'avons lu dans le récit, c'est par votre proximité avec le Christ, avec cet enfant qui est au cœur de tout. Plus vous serez unis au Christ, plus nous serons unis au Christ, plus nos vies vont se fondre, sans se confondre, mais se fondre et se marier parfaitement avec cette providence de Dieu qui déploie son plan de rédemption. C'est par votre attachement, votre soumission joyeuse à cette Seigneurie du Christ bienfaisante, à ce Seigneur de gloire et de grâce, que vos vies, vos choix, vos décisions contribueront au plan de Dieu et à votre joie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole. Et je vous propose un temps de prière pour ceux qui le souhaitent. Prions ensemble.